Maurice Revel, les yeux ouverts. Sur son lit, le buste raide, les yeux cheveux hérissés, le mort avait une effrayante face. Sa bouche était tordue, ses lèvres retroussées. De ses deux mains, il étreignait sa gorge. Dans la pénombre de la chambre, qu'une petite lumière éclairait mal, ses yeux avaient l'air de vivre encore, tant l'épouvante du dernier regard y était demeurée formidable. Près du lit, et entre le commissaire, les agents et un médecin arrivés en hâte, le domestique reprenait son récit, les doigts devant son visage, comme pour dérober à sa vue ce mort terrible. Il pouvait être 11 heures, monsieur était couché, et moi, je montais dans ma chambre quand j'entendis un cri. Mais un cri! Je grimpe l'escalier, je fais frappe à la porte de monsieur, on ne répond pas, j'entre et je vois. Je me rejette en arrière, j'ouvre la bouche pour appeler au secours, quand je distingue deux ombres qui couraient le long de la rampe. Alors, j'ai dégringolé l'escalier, je me suis sauvé par le jardin pour venir, pour prévenir. Mais, pour sûr, personne n'a pu s'échapper parce que j'avais fermé la porte à double tour et que toutes les fenêtres sont garnies de barreaux. Soupçonnez-vous quelqu'un? Ces ombres, êtes-vous sûr de n'avoir pas cru les voir? Le domestique esquissa un signe vague, puis reprit bientôt. Eh bien oui, depuis 2 ans, il y avait une femme de chambre qui était, pour ainsi dire, la maîtresse. Monsieur avait 75 ans. Elle était jeune, n'est-ce pas? Enfin, elle commandait, elle avait les clés. Et on disait qu'un jour, elle hériterait. Malgré cela, elle faisait entrer la nuit un individu, pas grand-chose. Nous, on n'osait rien dire. Mais puisque maintenant la justice est là, il faut que la justice sache. Et tout à l'heure, les ombres que j'avais vues, c'était eux. Vous savez que c'est bien grave, cela. Cette fois, le domestique répondit avec assurance, « Je sais. Bon, faites venir la femme de chambre. » À demi vêtue, les cheveux mal relevés, croisant son caraco sur sa gorge, elle entra en tremblant. Et avant qu'on lui posait la moindre question, elle se mit à larmoyer. « Ce n'est pas moi !»« Docteur, voulez-vous examiner le corps en le déplaçant le moins possible ?» fit le commissaire. Puis, se tournant vers la fille, « Où étiez-vous quand on est venu vous chercher ?»«
Dans ma chambre, monsieur. »
Seul ? Elle répondit assez naturellement, « Dame !» Il y eut un petit silence. Elle se mit à trembler, si fort que ses dents s'entrechoquaient. « Pourquoi avez-vous peur ? De quoi avez-vous peur ? » D'un hochement de tête, elle indiqua le corps et balbutia de ça, de lui, de monsieur, il me regarde. Elle n'est pas d'enfantillage. Hein? Reprenons. On dit que vous étiez la maîtresse de ce malheureux, n'est-ce pas? Elle mit les mains à sa gorge, les yeux fixés sur ceux du mort, et bégaya. Je ne peux pas le regarder. Ni vous, ni votre amant, car vous avez un autre amant. N'ignorez pas qu'il était très riche. Je ne sais pas, je n'ai pas d'amant. Quel est donc cet homme qui, cette nuit, fut introduit ici? Je ne sais pas. Avec qui tout à l'heure fuyez-vous dans l'escalier? Je ne sais pas. Et qui est maintenant derrière cette porte entre deux gendarmes? Oui, c'est vrai, oui. J'ai menti, fit-elle, la tête basse. Mais pour le reste, je ne sais rien. Voulez-vous venir un moment? Demanda le docteur au commissaire. La fille se remit à trembler et cacha sa figure dans ses mains. J'ai peur, il me regarde, emmenez-moi. Penché sur le corps et l'effleurant du doigt, le médecin dit à voix basse: Je ne vois rien, je ne trouve rien, pas la moindre trace de violence, pas une égratignure. Il aurait donc été empoisonné, 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 empoisonné de force. Alors, mais dans ce cas, alors nous revenons à la violence. Car il faut serrer la gorge, pincer le nez pour l'aider à ouvrir la bouche. Et on le trouve. À ce moment-là, un indice, oh, je ne sais pas moi, un trait d'ongle, des narines effleurées, une éraflure, une marque de pression sur le cou, quelque chose enfin. Alors comment expliquez-vous? Bon, embolie, arrêt brutal du cœur, rupture d'anévrisme, mort naturelle alors, en un mot. Oui, pourquoi pas? Mais parce que la fille, les doigts toujours fixés sur le visage, gémissait fort. Emmenez-moi, il me regarde, il me fait peur. Mais parce que, répéta très bas le commissaire, cette coquine a raison. Regardez-le. Est-ce qu'on a cette tête effrayante quand on est mort de mort naturelle? Oh! Je l'appelle regarder, moi. J'en ai vu pourtant des morts terribles. J'ai vu des têtes dont un coup de feu avait fait une bouillie. Je suis entré dans des chambres où l'on marchait sur des paquets de cervelle noyés dans des flaques de sang. J'ai vu des femmes et des enfants assassinés. Des brûlés qui mouraient en flambant comme une torche. Mais je n'ai rien vu, ni rien imaginé d'aussi épouvantable que cette tête, que ses yeux, que cette bouche ouverte, ses lèvres retroussées sur les dents. Jamais vous me ferez croire qu'une mort naturelle ravage un être à ce point-là. J'ai peur, il me regarde, balbutia la femme. Puis, voilà qui est autrement précis. Écoutez cette phrase, il me regarde. Écoutez-la. C'est un refrain, une obsession. Je connais ce refrain des criminels. Ils le répètent tous. Ils le répètent tous devant leurs victimes, parce qu'ils voient son visage immobilisé dans l'attitude où elle leur est apparue pour la dernière fois, vivante. Allez, croyez-moi, j'en ai tant vu. Il se tut. Promenant son regard de la fille à la tête du mort. Les yeux du mort fixaient toujours l'ombre mystérieuse, et la fille, grelottante, répétait sans arrêt sa prière sinistre. « Emmenez-moi, il me regarde, emmenez-moi !» Elle ne semblait pas l'entendre, et le commissaire, baissant encore la voix, murmura « Docteur, je crois avoir trouvé, je suis sûr d'avoir trouvé, j'explique le râle, l'absence complète de traces, tout, cette femme et son amant. » Sont venus ici, cela ne fait pas de doute. Croyant l'homme endormi, ils ont ouvert la porte doucement. Venaient-ils pour voler, venaient-ils pour tuer? L'enquête nous le dira peut-être. Mais l'homme ne dormait pas ou somnolait à peine. La preuve, il n'avait pas éteint sa lampe. En voyant apparaître dans le cadre de la porte ces deux ombres qui s'avançaient vers lui, armées peut-être, en tout cas menaçantes, il a poussé un hurlement d'effroi. « Oh, je ne peux plus, je ne peux plus !» finit la femme. « Il me regarde !» Faut-il la faire sortir ? Demanda un agent. Mais oui, mon roi, c'est le comédie comme ça. Conduisez-la à la tête du lit, comme ça elle ne verra plus, puisqu'il lui tournera le dos. Allez, est tranquille maintenant, il ne vous reviendra plus. La fille poussa un grand soupir et cessa de supplier. Le commissaire reprit. Il pousse donc un hurlement d'effroi, une pareille émotion, en pleine nuit. Oh, il en faut plus pour tuer un vieillard. Aussi, les autres, pris de peur, se sont jetés dans l'escalier. Et c'est à ce moment que le domestique les a aperçus. Il n'y a pas eu meurtre dans le propre sens du terme. Il y a un homme qui est mort de peur avant qu'on ait eu le temps de le tuer. Médicalement, qu'en pensez-vous? Oh, je pense que cela est médicalement possible. Je penserais même que c'est certain, si un détail ne venait m'impressionner étrangement. Regardez ce corps, la tête rentrée dans les épaules, est droite,
très droite. Suivez les yeux, son regard est direct, il se pose vers le pied du lit. Cherchez maintenant la porte par où seraient entrés les assassins. Elle est à l'autre bout de la pièce, à plus de 3 mètres, sur la droite. Ces yeux que la mort immobilisa ainsi, pouvaient-ils, ont-ils pu voir cette porte dite? Alors, fit le commissaire. Le médecin n'eut pas le temps de répondre, car on entendit un cri horrible, surhumain. La femme, redressée brusquement, avait la bouche tordue, les lèvres retroussées, étreignant sa gorge des deux mains. On la soutint, croyant qu'elle allait tomber à la renverse, mais elle se raidit, la tête rentrée dans les épaules, et regarda fixement, hallucinée devant elle. Le domestique, tremblant de peur, balbutia: « Mais elle est comme monsieur, elle crie comme monsieur. » Quelqu'un, debout au pied du lit, vit la face près de la face du mort et murmura: « Ils ont les mêmes yeux, comme s'ils voyaient la même chose. » Et soudain, le docteur qui avait pris un bras, le corps, pour l'emporter: « Il a raison, elle est innocente, regardez, regardez, voilà ce qu'il a vu, voilà ce qu'elle voit. » Sous l'édredon, une chose noire s'avançait. Une araignée géante dont les deux pattes velues étaient si fortes que dans le grand silence, on l'entendait grincer sur le drap et dont le large corps, au ventre rond et au dos bombé horrible, velouté, montait avec un long balancement vers la figure épouvantée du mort.